102.1 se bat à tous les jours pour vous donner l'heure juste. Traitez l'actualité qui nous entoure avec les spécialistes qui savent de quoi ils parlent.
Oh my God, I can't believe it.
Boulevard décortique. Boulevard rassemble. Rassemble. Come together. Boulevard 102.1. La radio rassembleuse de Québec.
Maintenant, 100% talk.
Une propriété, Leclerc Communication. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
C'est un plaisir de leur parler ce soir. On a le plaisir de recevoir l'Association québécoise du personnel de direction des écoles avec son président à sa tête, le président de l'Association du personnel des directions d'école, André Bernier. Merci d'être là, M. Bernier.
Ça fait plaisir, M. Marceau.
C'est quoi ça, l'Association du personnel des écoles, des directions des écoles? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Puis pourquoi ça touche autant nos enfants?
Bien, effectivement, ça mange plus de choses en hiver qu'en été, mais l'Association des directions, dans le fond, là, ça regroupe environ là, 850 directions d'école, ouais, un petit peu partout à travers la province, mais plus le long du fleuve. Fait qu'on couvre Kamouraska, Rivière-du-Loup, jusqu'à Laurier Station, Rive-Sud de Montréal, Portneuf, Charlevoix, Québec. Okay. Nous, on est situé dans cette section, dans ce coin-là. Le but, c'est d'être une petite association pour avoir une représentation de proximité. Donc, on représente les directions, directions adjointes, gestionnaires administratifs d'établissements, puis des cadres de services éducatifs pour, un, leurs conditions de travail, deux, faire des représentations auprès du ministère, auprès du politique, quand on juge qu'il y a des choses que ça ne marche pas, ça n'a pas de bon sens, faudrait améliorer, faudrait travailler autrement. Okay. C'est un peu ça notre rôle là, d'être là pour... nos membres.
Parfait. Donc, l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, vous dites à peu près 850 directions d'établissements scolaires, des gestionnaires administratifs de centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes sur le territoire, ce qui fait à peu près 12 centres de services scolaires.
C'est exactement 12 centres de services scolaires, oui. Okay.
Mais quand même, c'est vous dites que c'est petit, mais c'est quand même assez gros, on va se le dire, là.
Bien... Pour la représentation, on est comme les deux, on est quatre associations, puis on est les deuxièmes plus gros.
Okay. Et
mais l'autre association est beaucoup plus grosse, celle en avant de nous, sont 2400.
OK. Et quelle information que vous transmettez par l'entremise des médias, je pense entre autres là, aux mesures pour les téléphones et le vouvoiement, c'est le genre d'information sur lequel vous vous penchez, la violence dans les écoles?
Tout ce qui peut passer entre les mains des directions d'école qui a un impact sur le terrain, on peut discuter à propos de ça avec le ministère, avec le politique, pour voir, y a-t-il des aménagements à faire, faut-tu qu'ils nous consultent, y a-t-il des choses qu'on dit, ça n'a pas de sens, ça ne peut pas se traiter comme ça. Je vous donne un exemple là, très, très récent. Il y a eu une annonce du ministre comme de quoi il y aurait à avoir 30 heures de formation obligatoire pour toute personne détenant un brevet d'enseignement. Ça, il n'y a pas de problème à la base, mais les directions ont un brevet d'enseignement. L'ensemble des directions ont ça. Puis là, on s'est fait dire qu'il fallait se former sur les compétences des enseignants. On a dit, ouais, mais ça ne peut pas marcher. Nous, on a déjà nos compétences de gestionnaire sur lesquelles il faut se former. On ne peut pas avoir le double de formation. Faire 30 heures, c'est parfait. On est tout à fait d'accord. Fait que tu sais, c'est des choses comme ça qu'on va dire, ça n'a pas de sens, il faut faire un aménagement là-dessus. Fait qu'on va sortir le cellulaire, vous en avez parlé, le vouvoiement, toutes ces choses-là, de dire ça a-tu du sens, ça a-tu pas de sens, on peut-tu le faire comme c'est projeté, le délai d'application est-tu correct, c'est toutes ces choses-là, le port du voile, le visage découvert, toutes ces choses-là qui se retrouvent dans les écoles, nous on représente les gens, on leur demande ça a-tu du sens, c'est vous qui le vivez sur le terrain, Êtes-vous capable d'appliquer ça ou c'est pas applicable, il faut modifier des choses ou de dire ben non, pas tout de suite, mais oui, c'est très logique.
Parfait, tout ça est clair. Donc, l'Association québécoise du personnel de direction des écoles s'est penchée sur l'application des cellulaires à l'école. La règle est assez simple, c'est qu'il n'y a pas d'affaire à avoir de cellulaire à l'école. Est-ce que ça a été difficile à appliquer ça de la part de vos membres?
Pour être très franc, on s'attendait à quelque chose de bordélique, je vais le dire comme ça.
Ouais.
Finalement, ça n'a pas été ça du tout, du tout, du tout. Les jeunes ont été très résilients, ils ont collaboré super bien, des petits cas par-ci par-là, bien
Ouais.
sûr, là. Mais somme toute, là, les jeunes ont super bien fait ça dans les écoles, puis c'est très, très positif comme application, là.
Okay. Comment ça se passe dans les écoles quand un jeune arrive, on lui demande de laisser son cellulaire dans son sac, on lui demande de mettre son cellulaire dans un sac juste avant les classes? Est-ce qu'il a le droit d'utiliser le cellulaire pendant ses pauses ou encore sur l'heure du dîner?
Quand ils arrivent à l'école, faut plus le voir. En tant que tel, là, c'est une application généralisée dans toutes les écoles, mais il reste que pour des fins pédagogiques, un prof pourrait dire aujourd'hui, pour la période où vous allez en avoir besoin, amenez-le. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'aménagements comme ça que les profs le demandent? Je suis pas certain, parce que dans bien des écoles, ils ont accès à des Chromebooks, à des iPads, à des portes, ils ont plein d'autres outils qu'ils peuvent utiliser. Sinon, ça reste dans leur casier, puis on n'est pas supposé les voir de la journée. Puis, somme toute, il y a très peu là, de sanctions qui sont données par rapport à ça ou de saisie de cellulaire. Ça arrive, mais c'est beaucoup en bas de ce qu'on pensait que ce serait là, tout au cours de l'année. Les jeunes ont réellement compris. Puis, on le voit par leur comportement à l'école. Ils jouent ensemble, les tables de ping-pong, les tables de Mississippi, le parascolaire, les jeux de société, c'est quelque chose qui bouge beaucoup plus. C'est plus bruyant parce que ça parle plus.
Ouais.
Avant, c'était plus calme parce qu'ils étaient tous fixés sur leurs ordinateurs. Tu sais, ça a du plus. On avait des jeunes là qui oubliaient de dîner tellement ils étaient focus à jouer à des jeux pendant l'heure du dîner, là. Tu sais, c'est quand même quelque chose là qui a comme pas de bon sens. Puis là, ben ça a passé, ces choses-là. Il y a des bibliothèques qui ont été obligées de réaménager un peu pour donner des zones pour que les jeunes puissent jouer à des jeux de société, aux échecs, des choses comme ça. Fait que tu sais, c'est du beau, c'est du positif là, par rapport à ça. Chapeau, là-dessus, c'était numéro un.
André Bernier, est-ce que les parents étaient tout à fait à l'aise avec ce nouveau règlement-là en majorité? Parce que quand j'ai jasé avec mes gars de ce nouveau règlement-là, ce qu'ils me disaient, c'est qu'il y a des parents qui tenaient absolument à ce que les enfants puissent avoir accès à leur cellulaire si jamais il se passait quelque chose. Puis j'ai dit à mon plus vieux, Joshua, je dis, puis les autres élèves, est-ce que eux, ils veulent absolument leur cellulaire? Puis lui m'a dit, non, non, tout le monde accepte sans aucun problème de ne pas avoir de cellulaire à l'école, papa, c'est tout à fait normal. Mais il semblerait qu'il y avait des parents qui étaient un peu contre ça.
Si je vous disais que 100% des parents étaient d'accord, je suis en train de vous mentir.
Ouais.
Il y en a là, qui disaient, oui, mais j'ai besoin de leur joindre. On leur a répondu, ben, vous appellerez à l'école. On va être capable de répondre. On a déjà fonctionné sans cellulaire.
Ouais, on revient à
Puis, on est
l'ancienne.
encore. Ben, sur des choses, des fois, c'est pas mauvais là, de retourner à
Ouais.
l'ancienne. Puis là-dessus, ben, on le voit. Là, pour la socialisation, tout ça a des impacts positifs. Mais oui, il y a des parents qui s'accrochaient, mais je vous dirais qu'on n'a pas eu là, de ruée monstre de parents. Ça s'est calmé très, très rapidement parce qu'ils voient qu'ils sont capables là, de quand même parler à leurs jeunes. Puis ce n'est pas tous les jours qu'ils ont besoin de leur envoyer un texto pour dire je m'ennuie, j'ai hâte de te voir.
Ouais.
C'est ça.
Mais M. Bernier, on est à peu près du même âge, là. Les cellulaires étaient très attractifs à l'école, on va se le dire. Mais quand on était au primaire, au secondaire, vous et moi, c'était les fameux Walkman, là, qu'on avait sur les oreilles pendant les heures de pause pour un peu s'isoler, là. Puis là, il y en a qui avaient malheureusement de l'intimidation à l'école. Donc, quand il y avait leur Walkman, il était dans un coin, puis il faisait fi de l'intimidation qu'il y avait. C'est complètement une autre époque, hein, mais on était avec nos Walkman aussi. On trouvait une façon, nous autres aussi, de se sortir du quotidien avec notre Walkman en écoutant notre musique, là.
Ben oui, c'était pour certains, alors que là, c'était rendu la très, très grande majorité. Fait que, tu
Ouais.
sais, le balancier était comme
C'est vrai.
complètement à l'inverse, là. Fait que elle était là la problématique. Si on avait eu quelques élèves qui avaient eu un cellulaire, je pense qu'on aurait fait comme le Walkman dans le temps, dire, bah, c'est pas grave, tu sais, Ils sont quelques-uns, puis ça n'a pas d'impact. Mais là, c'était une grande majorité. Puis quand ce n'était pas les cellulaires, ben c'était les Chromebooks, c'était les ordinateurs, c'était les iPads. Là, ils n'ont plus rien de ça, là, tu sais, en dehors des heures de classe, ils ne touchent pas à ça. Fait que, tu sais, ça force une socialisation additionnelle, puis c'est numéro un. Puis ils le font bien. Tu sais, il faut être très franc, là, les jeunes ont bien compris, puis ils s'obstinent pas par rapport à ça.
Le vouvoiement obligatoire maintenant, est-ce que ça a été complexe d'instaurer ça dans nos écoles? J'imagine que c'est juste les écoles francophones. En anglais, il n'y a pas de vouvoiement vraiment, là, mais le vouvoiement, c'est un
You
petit peu
be you, c'est pas mal pareil.
Alors, le vouvoiement, est-ce que ça a été bien accepté de la part de vos membres et des étudiants?
Ben, ça a été bien accepté, mais est-ce qu'on fait la police du vouvoiement dans les écoles? Assurément pas, là. C'est pas appliqué de la même façon d'un milieu à l'autre. Il y en a qui l'appliquaient déjà. Fait que, tu sais, ça, eux autres, ils ont continué à rouler comme si de rien n'était.
Ouais.
Il y a d'autres milieux, c'était pas appliqué. Ils ont commencé. Il y en a que c'est encore so-so. Puis il y a des niveaux où c'est pas facile. Tu sais, au préscolaire, de dire à un enfant, tu dois me dire vous. C'est quoi ça, vous? Vous n'êtes pas plusieurs. Ils ont de la difficulté à comprendre ça. Puis ils ont tellement d'autres enjeux à travailler que ce n'est pas nécessairement la priorité. Je serais très franc avec vous, là. Puis autant les profs que les directions ne font pas la police du vouvoiement, surtout chez les petits. Quand on arrive au secondaire, c'est une autre dynamique. Ils comprennent tout ça,
Ouais.
puis c'est plus facilement applicable. Mais je vous dirais que c'est encore là, c'est variable, mais que je n'ai pas entendu parler qu'il y avait de problématiques par rapport à ça ou qu'il y avait de sanctions par rapport à ça, là.
Ouais. Moi, mes gars m'ont rapporté que c'était très important pour les enseignants de se faire appeler monsieur, madame. Donc, Madame Nancy, Monsieur Pierre, ça a été très facilement accepté par les gars. Mais effectivement, comme vous dites, Monsieur Bernier, le vouvoiement est pas évident parce que quand vous et moi on était jeunes, on entendait nos parents vouvoyer leur propre père ou vouvoyer leur mère. Fait que c'était un petit peu plus facile de l'instaurer dans notre vocabulaire. Mais moi, je peux vous garantir, malheureusement, bien que je voudrais, Monsieur Bernier, mes enfants ne me vouvoient pas.
Ben, puis, tu sais, j'étais à la même place que vous, puis il y a des choses que je pense que ramener le vouvoiement, c'est pas mauvais. Tu sais, je donne juste l'exemple, quand on va dans les commerces, tout ça, puis vous direz que je suis peut-être vieux, je vais l'accepter, mais de se faire tutoyer automatiquement, je trouve qu'il y a un respect qui est parti avec les années, que là, de le réinstaurer comme ça, peut pas être mauvais, là, tu sais, pour que les jeunes apprennent ça. Il y a des formes de politesse qui ont comme, ils sont évadés, sont disparus là, du discours. Puis que je pense que ça peut être bon là, de les réinstaurer comme ça, juste pour que les jeunes l'apprennent, puis qu'ils voient un peu là, qu'il y a des façons de se parler. Parce que on revient sur le cellulaire, le langage qu'ils utilisent là-dessus, puis les abréviations, puis c'est pas le même français qu'on avait dans le temps.
Ah non, puis je peux vous dire que chez nous, les fameux youtubeurs français, les fameux youtubeurs marocains qui développent leur propre vocabulaire, ça fait en sorte que nos enfants nous parlent maintenant, puis là, je suis plus le père, je suis rendu le daron. Leur mère est rendue la daronne. Ça, c'est dur de rester à jour dans toutes ces affaires-là,
Oui, puis on se retrouve à avoir la flemme aussi là, à
là.
travers tout ça. J'ai la même chose à la maison.
Ouais, faut juste s'adapter. Donc, somme toute, M. Bernier, avec l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, pour le cellulaire, une note de 100%. Pour ce qui est du vouvoiement, au primaire, début secondaire, c'est un petit peu plus difficile, mais par la suite, ça embarque. Fait qu'on peut mettre un 8 sur 10 à peu près, là.
Oh oui, facilement, là. Tu sais, les deux, c'est dans le positif, là, assurément.
Il reste-tu d'autres problématiques que ça?
Il reste plein de problématiques, là. Tu sais, dans les écoles, il y a plein de choses, là. Il y a le respect global, c'est pas parce qu'on rajoute le vous que les enfants deviennent immédiatement respectueux par rapport à ça. Fait que, tu sais, il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport à ça. On parle à l'école, tu sais, du cellulaire, tout ça, mais la présence des tablettes, des écrans à la maison chez les tout-petits
Ouais.
a déjà des impacts dans les écoles parce qu'ils arrivent avec du retard au niveau de la gestion des émotions, au niveau de entrer en relation avec les autres, au niveau de l'autonomie. Tu sais, ça a déjà plein, plein d'impacts et on le voit là quotidiennement là, dans nos écoles, là. Surtout quand on arrive en début d'année, là, il y en a qui ont 5 ans, mais il y en a qui ont 4 ans. puis qui ont fait beaucoup d'écrans. Ça paraît parce qu'aussitôt qu'ils se font dire non, non, tu ne peux pas faire ça, là, il y a des réactions, ça explose parce qu'ils ne gèrent pas bien leurs émotions. Parce que la tablette, elle fait toujours ce que tu veux. Fait que tu décides de changer de vidéo. Ça change de vidéo. Tu sais, ils n'en ont pas de problématique avec ça. Donc, on voit énormément d'impact, puis on voit des impacts aussi langagiers. Il y a des retards de plus en plus chez plus de jeunes qu'auparavant, là. Ça, il y a les orthophonistes qui sont sortis en lien avec ça il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est un des gros impacts. Puis avant que ce comportement-là soit corrigé sur la gestion des émotions et tout ça, là, ça se fait pas en juste 2 mois, 3 mois, 1 an, là. Des fois, ça prend 2, 3 ans, là, avant qu'on soit capable de ramener ça. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus de travail pour les profs et les directions.
À l'époque, on disait que c'était le maître qui décidait dans sa classe. On savait pas si on parlait du prof ou encore du fameux maître là, que les profs avaient pour taper sur le bureau, mais on disait que c'était le maître qui décidait dans sa classe. Puis je vous dirais franchement que quand j'arrivais à la maison puis j'avais un plaidoyer contre mon professeur, bien souvent, mon père ou ma mère prenait parti pour le professeur en disant ben c'est lui qui décide. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été comme inversé, puis ça a fait en sorte qu'on a eu des enfants rois. Au niveau des communications avec les parents, quand vous leur parlez des cellulaires qui sont peut-être problématiques, du vouvoiement ou encore du fait que les enfants ont peut-être trop de tablettes à la maison, avez-vous une belle collaboration en général avec les parents?
En général, là, on a des bonnes communications avec les parents, il y a des bons liens. Mais, comme dans toute chose, c'est les aspects négatifs qui prennent le devant et puis qui prennent beaucoup, beaucoup de place, là. Tu sais, des parents quérulents qu'on doit intervenir 1, 2, 3, 4, 5 fois, c'est monnaie commune, là, pour certains. Mais ça reste que dans une école, il n'y en a pas 50%. On a un petit pourcentage, mais qui nous prennent un temps fou. Puis c'est ces parents-là qui vont porter plainte à l'école, vont porter plainte au centre de service, au protecteur de l'élève, et ça fait une surcharge de travail pour tout le monde dans les écoles, pour des fois des sujets qui ne sont même pas des sujets qui devraient être traités, là. Mais on se rappelle que quand le protecteur national de l'élève a été amené, toute insatisfaction du parent peut amener une plainte. Fait que vous comprenez que toute insatisfaction, c'est large comme définition, là. Le repas cafétéria n'est pas à mon goût, je porte plainte au protecteur national. Fait que, tu sais, ça donne un pouvoir aux parents qui est comme un peu trop grand. On va le dire comme ça, là, pour les parents qui décident de faire cavalier seul, de ne pas travailler en équipe avec l'école, là, ça donne beaucoup de pouvoir, puis pas nécessairement le bon pouvoir. Fait que, tu sais, ça, c'est problématique, là. Les profs, les directions le vivent à tous les jours, là, dans les écoles, là, des problèmes par rapport à ça, mais souvent avec les mêmes parents, pas 48 parents de la classe, un, deux, mais oui, ça, il y en a, c'est problématique. Mais tu sais, c'est un problème à l'école, mais c'est un problème que je dirais de société. Ce matin, j'étais dans la voiture avec ma conjointe, puis elle appelait à quelque part, puis le premier message, c'était sur le fait d'être bienveillant, le fait d'être respectueux en parlant à la personne. Fait que, tu sais, c'est pas juste dans les écoles, il y a quelque chose au niveau de la société. Il va falloir que tout le monde se remette les yeux en avant des trous parce que ça ne peut pas marcher comme ça, qu'on est obligé de mettre des messages partout comme de quoi faut être respectueux, faut avoir un langage adéquat en parlant. Ça n'a pas de sens, là, d'être rendu là.
André Bernier, vous êtes directeur de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Vous avez 830 directions d'établissements scolaires à vous occuper avec votre équipe. C'est quoi les plaintes qu'on pourrait dire, c'est positif de faire une plainte là-dessus versus les plaintes négatives que vous dites, tabarouette, je comprends même pas pourquoi en 2026 les gens font encore des plaintes là-dessus. Pourquoi c'est bon de se plaindre? Puis pour quelles raisons, des fois, les gens se plaignent pour rien dans les plaintes que vous voyez passer à l'association?
Bien, les plaintes, on ne les voit pas passer à l'association. Ça passe jamais par nous, ça passe par le centre de service, puis directement au protecteur national de l'élève. Quand on en entend parler, c'est parce qu'on a un membre qui dit ça n'a pas de bon sens, là, je me retrouve au protecteur national, pouvez-vous m'accompagner par rapport à ça? J'ai besoin, là, de soutien, je ne sais pas comment prendre ça. Fait que, tu sais, ça va être dans ces cas-là. Mais des exemples où je dirais, tu sais, un parent pour lequel son enfant ne reçoit pas les services qu'il devrait recevoir, ben, c'est correct, là, tu sais, il a parlé au prof, le prof dit non, il a parlé à la direction dit non, puis il considère que son enfant n'a pas les services qu'il devrait recevoir, c'est justifié. Mais l'autobus pas l'arrêt, pas à la place que moi je veux, ou le repas à cafétéria, c'est pas ce que je veux. Ça, c'est pas des motifs qu'on dit selon moi là, qui méritent d'être des plaintes. Mais la règle, la loi dit réellement toute insatisfaction. Fait que qui suis-je pour dire que c'est pas des bonnes plaintes là? Je vais le dire comme ça là. Mais il reste qu'il y a quand même des motifs farfelus.
Je trouve ça intéressant. Le TDAH, à notre époque, ça n'existait pas. Ou ça existait, puis on n'était pas au courant. Là, on nous dit que dans des classes, des fois, il y a plusieurs plans différents pour chaque enfant parce qu'il y en a qui ont des petites problématiques. Le TDAH, c'est pris comment par les membres de votre association? Est-ce que c'est pris très au sérieux? Est-ce qu'il y a un petit relâchement? Parce que là, à un moment donné, tous les enfants, les 20 enfants que vous pouvez avoir dans votre classe, ne peuvent pas tous être atteints du TDAH. Là, c'est.
C'est pris au sérieux, mais en même temps, il faut faire la part des choses, là, t'sais. Il y en a que s'ils bougeaient un petit peu plus, on s'en rendrait même pas compte. Mais quand je parlais tantôt, là, t'sais, des fameux impacts des écrans, bien ça aussi, c'en est un. T'sais, dans notre temps, on était tout le temps dehors. On bougeait, on courait, on faisait du sport, t'sais, c'était non-stop ou à peu près. Nos parents nous cherchaient. Là, on les cherche pas, on le sait où ils sont très rapidement, les enfants. Fait que, t'sais, ça a quand même un impact qui fait qu'on aurait des enfants qui ont un peu moins d'énergie dans les classes,
Ouais.
mais ils ne sont pas tous TDAH, pas parce qu'ils ont de l'énergie qu'ils sont TDAH. Puis nous, comme direction, et autant les profs, on n'est pas justifié de dire votre enfant a un TDAH parce qu'on n'est pas un médecin, on n'est pas un psychologue. C'est les psychologues qu'il faut qu'ils évaluent, puis c'est le médecin au bout de la ligne qui va dire. Oui, je suis d'accord avec ça. Tu sais, il faut que ça soit des spécialistes réellement là, qui posent le diagnostic. On n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour offrir un service. On voit qu'il y a un enfant qui bouge, ben notre rôle comme direction avec les profs, avec l'équipe, c'est de dire, OK, il bouge, il y a de la difficulté à se concentrer, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Bon, ben, on peut y prêter un banc oscillant qui va faire que ça nécessite son énergie, là, tu sais, plus un peu, puis qu'il va être capable plus de se concentrer. On va lui donner un petit peu de temps de plus. On va lui donner une pause avant de faire une tâche plus exigeante pour, tu sais, qu'il relâche. On va l'envoyer boire un verre de l'eau, puis il va revenir, tu sais, puis il va avoir bougé un petit peu. Tu sais, on va mettre des choses en place pour répondre aux besoins. On n'a pas besoin d'avoir le diagnostic. Le diagnostic, là, c'est beaucoup plus quand le parent va vouloir faire un cheminement pharmacologique pour dire, oui, non, mon enfant, là, je suis d'accord avec vous, il a réellement besoin de ça parce qu'à la maison, tu sais, il y a des impacts. Là, ils vont bouger, tu sais, dans ce sens-là, puis il va falloir qu'il y ait un diagnostic puis que le médecin prenne une décision. Mais nous, à l'école, c'est pas une obligation. On est capable de donner des services sans diagnostic.
Ouais. Parce que quand on a 20 élèves, on a 12 plans de travail là, pour 12 élèves qui ont des difficultés, ça doit être complexe au niveau de l'enseignement.
C'est très complexe. C'est pour ça qu'on essaie avec les profs de travailler au niveau des mesures universelles qu'on appelle, là,
Ouais.
qui vont répondre au plus de jeunes possible pour pas avoir à dire, bon, OK, lui, ça y prend ça, elle, ça y prend ça, lui, ça y prend ça. Parce que ça devient une job inhumaine pour les enseignants. Puis le fait d'avoir autant de plans d'intervention, ben, ça devient une job inhumaine pour la direction aussi parce qu'elle est à peu près toujours assise pour le plan d'intervention ou sa révision. Fait qu'imaginez une école où il y a 600 élèves, mais que la direction, il faut qu'elle s'assoie pour 120 plans d'intervention. Un plan d'intervention, c'est au moins 1 heure. Il faut le préparer avant. Fait que, tu sais, c'est 120 heures dans son année qu'elle va passer à juste faire des plans d'intervention, plus la préparation. C'est à 40 heures par semaine, ce qu'on ne fait pas là, on fait bien plus que ça, mais à 40 heures par semaine, ça fait 3 semaines dans son année qu'elle a juste fait ça. C'est un peu logique.
Que disent vos membres au sujet de la violence qui est en montée dans nos écoles année après année? Puis il y en avait de la violence dans les années 70, 80, 90, 2000, mais précisément quand on voit les sondages là, sur des membres du personnel enseignant qui ont été témoins ou encore ont été victimes d'actes de violence, on voit qu'il y a une certaine montée. C'est quoi le mot d'ordre de votre côté que vous donnez à vos enseignants? C'est tolérance zéro, j'espère, là.
C'est très tolérance zéro. Et tu sais, vous dites une certaine hausse, c'est pas juste une certaine
Ah, c'est
hausse.
majeur. Ah oui.
J'ai été dans les écoles là, pendant 25 ans, jusqu'à l'année dernière, là, comme direction adjointe, il y a un changement, là. Il y a réellement quelque chose. Puis je peux pas vous dire pourquoi, là, mais il y a réellement un changement chez les jeunes. Puis je parle les petits encore plus que les grands. Qu'on avait il y a 10 ans peut-être, un élève une fois de temps en temps, tu sais, qui se désorganisait. Puis là, maintenant, on a souvent un, deux, trois par jour qui se désorganisent là, pour différentes choses. Il y a plusieurs possibilités qui amènent ça. T'sais, je parlais tantôt des fameux écrans, tout ça, qui amènent qui a des impacts. Le fait qu'on manque de personnel, c'est pas pour aider pantoute, pantoute là, dans les écoles, parce que quand tu as besoin d'avoir dans ton école 4 ou 5 TES, étant donné le nombre d'élèves, puis que tu es juste capable d'en trouver deux, trois, c'est parce qu'il en manque deux, là. T'sais. Fait qu'ils viennent en surcharge, ils deviennent de plus en plus fatigués, puis des fois, ils tombent au combat à cause qu'ils sont trop fatigués. Après ça, on manque de personnel enseignant. On a du personnel non légalement qualifié qui viennent dans nos écoles. Merci à ces gens-là d'être là, parce que sans eux, on aurait combien d'élèves là qui n'y aurait pas de prof? Mais reste que ces gens-là n'ont pas la formation, n'ont pas le bac de 4 ans où ils apprennent de la gestion de classe, là. Tu sais que là, eux autres, ils apprennent, comme on dit, sur le tas. Puis apprendre sur le tas, c'est apprendre à la plus dure. Fait que, tu sais, ça a des impacts, ça aussi. Et reste que la formation initiale des enseignants, il y a des lacunes en termes de gestion de classe, là, tu sais, qui doivent être travaillées. Il n'y a pas si longtemps que ça, là, j'étais dans un congrès de la FSE parce que j'avais été invité, puis même eux le disent que la formation initiale, faut qu'elle soit revue. Fait que, tu sais, quand même les syndicats nous disent que la formation initiale, il y a du travail à faire dessus, je pense qu'on a un consensus là, par rapport à ça. Fait que, tu sais, il y a plusieurs choses qui font qu'on a un impact, mais oui, il y a une hausse de la violence, oui, c'est tolérance zéro, mais tout n'est pas de la violence, là, tu sais, puis c'est pas la même violence. Le Timinou de maternelle qui se fâche puis qui donne un coup de pied, il n'y a pas la force d'un élève de 5e secondaire qui donne un coup de pied, là, tu sais, mais ça reste que c'est de la violence puis que c'est pas tolérable. Faut juste pas dire que ça a le même impact non plus, là, tu sais, faut être capable de se dire que la mèche du petit de maternelle est peut-être pas mal plus courte, puis il n'y a pas le jugement. Ça, tout au niveau du cerveau n'est pas encore développé versus le grand de secondaire 5 qui a 16-17 ans. Lui, là, le jugement, il est là, il sait qu'il n'a pas à faire ça.
Vous y connaissez pas mal plus au niveau de l'éducation de nos enfants dans les écoles, là, mais je vais me permettre d'étaler mes préjugés. Moi, je pense qu'un enfant de 4 ans, 5 ans qui donne un coup de pied à son professeur, c'est un premier flag là, à envoyer aux parents. C'est-à-dire que là, il m'a pas fait mal, je m'en irai pas à l'hôpital, mais il m'a donné un coup de pied et ça, c'est inacceptable. Des fois, faire preuve de laxisme en disant « Ah, oh, il a juste 4 ans, il a juste 5 ans », puis ne pas en parler aux parents, vous aidez pas cet enfant-là, malheureusement. T'sais. Puis, est-ce que c'est un changement de culture au niveau de l'éducation de nos enfants? Est-ce que les fameux enfants rois là, qu'on nous parlait, là, 10, 15, 20 ans, est-ce que ces enfants-là, ben, ils élèvent un peu leurs enfants en disant, ben, eux autres aussi, c'est des petits rois, puis même s'ils me frappent, c'est pas si grave que ça, ils s'expriment, mais là, après ça, ils s'en vont frapper le professeur parce que lui, il connaît pas la notion de, hey, je peux frapper ma mère, fait que je peux frapper mon père, fait que je peux frapper aussi le professeur. C'est une culture d'éducation qui a changé chez les parents?
Bien, il y a quelque chose de sociétal, moi, je pense, là-dedans. En même temps, ce n'est pas tous des parents. T'sais, on a une majorité d'enfants qui fonctionnent bien, mais on en a beaucoup, trop même, là, je vais dire, là, t'sais, qui ont ces écarts de comportement-là. Puis oui, vous le disiez tantôt, là, faut mettre au courant ces parents-là. La problématique qu'on vit souvent, c'est que les élèves qui ont des problématiques, c'est souvent là que ça va accrocher avec le parent. C'est plate à dire, là. La grande majorité vont collaborer, mais quand ça devient plus crunchy, oups, là, on sent là, que la communication est moins facile. Puis ça, c'est une autre chose. Tu sais, quand on parle de parents qui sont difficiles, dans la formation des enseignants, on ne nous apprend pas comment gérer un parent difficile, là. Tu sais, on nous apprend à gérer des parents de façon plus générale. Fait que, tu sais, il y a du travail à faire de ce côté-là, parce qu'un prof, là, c'est très déstabilisant d'avoir un parent qui rentre dedans alors que, tu sais, t'essayes juste de vouloir aider l'enfant, autant comme prof que comme direction, puis du jour au lendemain, bing, bang, des menaces, des ci, des ça. T'as pas eu, là, j'étais pas prêt à ça. Là. Pourquoi, là, vous faites ça, là, alors que moi, je veux vous aider? Oui, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. L'école, pour plusieurs parents est devenu un lieu trop. Moi, j'ai été à l'école, fait que je le sais qu'est-ce qu'il y a à faire. Je suis capable de faire ta job parce que j'ai été à l'école. Non. On a fait un bac, on a fait des maîtrises. C'est pas pour le fun, ça sert à quelque chose. On a appris quelque chose dans toutes ces années-là. Mais il y a plusieurs personnes, platement parlant, qui ont cette mentalité-là. Mais, je le répète, la grande majorité des parents, ça se passe bien, puis on a des belles relations avec nos parents, des parents qui s'impliquent dans l'école, dans les bibliothèques, dans les sorties, ça se passe bien, là, c'est ça. Mais notre petit pourcentage, il peut tirer beaucoup de jus.
Ah, moi, je peux vous dire que j'ai fait quelques incursions dans le milieu scolaire au primaire. J'ai fait des petites des ateliers avec des enfants, puis j'ai compris ce que les enseignants pouvaient vivre à chaque jour. Moi, après 20 minutes avec 20 enfants qui étaient autour de moi, là, je peux vous dire que j'aurais préféré aller à la guerre, je pense. Ben ça, on aurait été moins fatigué à la guerre que d'être avec des tout-petits. C'est vraiment une vocation, travailler avec des tout-petits, avec des enfants. Moi, j'ai le plus grand respect pour nos enseignants au Québec, là.
Bien, je pense qu'il y en a beaucoup de parents qui, avec la pandémie, ont compris l'impact, là, tu sais,
Aussi,
quand ils ont
ouais.
vu tout ce qu'il y avait à faire, là, on a beaucoup, là, qui ont fait comme, OK, wow, non, je pensais pas que c'était ça. Fait que, tu sais, ça leur redorait un peu le blason, là, tu sais, du travail des enseignants, des écoles, des directions. Mais il y a encore du travail à faire par rapport à ça, là. Mais c'est drôle qu'on parle de ça. Il est sorti avant-hier, justement, une étude là, par un prof à l'Université Laval qui parle justement de ça, là, comment l'école est perçue par les Québécois en 2025, puis il compare ça avec des chiffres de 1983. Fait que, tu sais, j'attendais à ce que les chiffres soient négatifs ou pas très beaux, mais somme toute, les Québécois là, tu sais, sont positifs. J'ai pas encore fini là, de lire tout ça, là, mais. Ça fait partie de ma lecture à faire.
Maintenant, on l'a dit tantôt, vous représentez énormément d'établissements, là, donc 830 directions d'établissements scolaires et de gestionnaires administratifs de centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes sur le territoire. Vous êtes l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Que disent vos membres sur l'état de nos infrastructures?
Que c'est pathétique. On va se le dire, là, tu sais, c'est 53% du parc immobilier en éducation qui est en mauvais état. Fait que, tu sais, ça a juste pas de bon sens. Puis il y a quelqu'un qui sortait dernièrement pour dire, là, les hôpitaux, on se fait dire que c'est tout croche, que ça n'a pas de bon sens. Je parle pas du service, là, je parle réellement des bâtisses. Ben, ils sont à 47% de vétusté, on est à 53. Ça veut dire que c'est encore pire dans les écoles, là. Tu sais, souvent, on va nous montrer des photos d'un trou d'un mur, des choses comme ça, mais il y a des planchers qui sont croches, il y a plein d'écoles qui n'ont pas de ventilation, qu'on se fait dire d'ouvrir les fenêtres pour qu'il y ait un courant d'air. À moins 22 puis à moins 30 l'hiver, ouvrir une fenêtre, ça ne nous tente pas pantoute. Ouais, mais dites aux enfants de se mettre un manteau sur le dos. Ben voyons, on est dans le clan. Tu sais, il y a du travail à faire par rapport à ça, pas à peu près. Il y a des places que c'est pire que d'autres. Tu sais, il y a des centres de services, là, parce que ça a été géré réellement par centre de service. Il y en a, là, excusez l'expression, mais ils sont sa coche. Tu sais, que toutes leurs écoles, là, sont somme toute, là, dans le A, B, C, rien dans le DE. Mais il y en a des centres de service que tout est dans le DE. C'est ça qui n'a pas de bon sens, là. Tu sais, il y a eu, assurément, je ne me ferai pas d'amis en disant ça, mais il y a eu un laisser-aller. Il y a eu une mauvaise
Ouais.
planification.
Il y a eu un laisser-aller, puis il y a eu des gens qui ont été privilégiés dans leur circonscription. Parlons un peu de politique. Gabriel Nadeau-Dubois, je vais vous dire que je suis pas un fan de Gabriel Nadeau-Dubois, puis encore moins un fan de Québec solidaire, mais ils ont fait une christie de belle job quand ils ont sorti les chiffres des endroits qui étaient privilégiés pour ce qui est des investissements. Et on se rend compte que, tu sais, on nous disait dans le temps, vote du bon bord, tu vas être récompensé. On se rend compte que c'est encore le cas en 2026. Il y a des circonscriptions qui ne sont pas prises par la Coalition Avenir Québec, qui n'ont pas eu de financement pendant des années et des années, tandis que d'autres, où il y a des députés qui sont quand même influents, bien, eux, ils ont réussi à avoir de l'argent pour bonifier leurs infrastructures ou encore construire des écoles neuves. T'sais. Normalement, ça devrait être équitable à la grandeur du Québec, là, pour augmenter justement la moyenne au bâton, là, de la qualité de nos infrastructures. Vous me parlez de 53 %, c'est un établissement sur deux est fini, là.
Et comment je vais dire? Il y a des établissements que, tu sais, on se pose la question de, faut-tu le mettre à terre ou on peut le rénover? Tu sais, on est jusque-là dans nos questionnements. L'autre questionnement qu'on peut avoir, c'est assurément, là, tous les centres de services reçoivent des allocations pour la rénovation, pour ça. Ça, c'est sûr, ça fait partie des règles budgétaires. Ce qu'on parle plus de ce que M. Anadeau-Dubois a fait ressortir, c'est plus pour les constructions et les agrandissements que là, il y aurait eu des impacts là, par rapport à je suis du bon bord ou du mauvais bord. C'est questionnant. Je suis obligé là, de le dire, mais je ne me suis pas assez penché encore là-dessus. Mais pour ce qui est de la rénovation et de le maintien du parc, tout le monde reçoit de l'argent. Fait que, tu sais, comment ça a été dépensé? C'est de l'argent qui va en investissement. Fait que ça ne peut pas avoir été dépensé pour payer du personnel, pour ajouter du personnel. Ça ne se fait pas, là. Pourquoi il y a des centres de services qui ont tant de retard alors que d'autres ont été capables de maintenir leur parc? Il y a quelque chose de questionnant par rapport à ça.
Est-ce que vous rencontrez des politiciens parfois avec le nombre de personnes que vous représentez? Est-ce que des politiciens viennent vous voir pour tâter un peu le pouls du terrain, pour savoir où est-ce qu'ils pourraient s'enligner? Puis je vous enligne sur ma question. À un moment donné, il y avait Bernard Drinville qui était ministre de l'Éducation. On parlait de la chaleur dans les écoles, comme quoi c'était épouvantable pour certains élèves et certains professeurs de vivre ça. Là, c'était 35 degrés à l'intérieur de la classe. Comment veux-tu étudier? Comment veux-tu faire ton cours sur le sens du monde? Et Bernard Drinville avait dit, ben c'est pas grave, ils ont juste à prendre l'argent puis à aller acheter de l'air climatisé. Et là, un de mes chums, on s'entend là, que c'est pas une étude scientifique, là. Il y a un de mes chums qui est concierge dans une école qui dit, Yann, c'est parce que le système électrique n'est pas fait pour accueillir ces airs climatisés-là. Il dit, le ministre de l'Éducation vous dit n'importe quoi. Puis en confrontant justement Bernard Drinville à l'époque, il avait été obligé de reconnaître qu'effectivement, il y a certaines écoles que tu ne peux pas brancher d'air climatisé comme ça, sinon tu vas faire sauter d'autres choses.
Ah ouais, c'est pas certaine. Je dirais presque la majorité. Tu sais, j'ai fait quelques écoles là, dans ma carrière, et la plupart, c'est fallait pas que tu branches deux choses en même temps qui tiraient trop de jus parce que les briqueurs sautaient. Fallait pas que tu fasses marcher deux micro-ondes en même temps parce que le briqueur lâchait. Les boîtes électriques sont pleines à pleine capacité. Ça, les écoles, souvent, quand il vient temps peut-être de faire un projet avec les ressources matérielles, ça a des gros impacts parce qu'on dit, OK, là, ça va coûter un prix de fou, il faut rajouter une boîte électrique, là. Fait qu'effectivement, il y a ça, mais oui, on parle à des députés, autant au niveau des libéraux, Québec solidaire, même la CAQ, là, tu sais, on parle aux gens pour leur dire, regardez, là, le milieu, là, c'est comme ça que ça se passe, c'est ça les impacts qu'on a sur le terrain, mais en même temps, ils n'ont pas le contrôle de qu'est-ce qui se fait dans chaque centre de service ni dans chaque école. C'est certain que là, quand on parle d'infrastructure, c'est beaucoup plus géré au niveau du centre de service parce que les montants que les écoles reçoivent pour ça, c'est très, très peu. Parce qu'une direction n'a pas l'expertise pour dire, ouais, ça, ce plancher-là est à refaire parce qu'il y a une pente qui est un peu trop grande, la toiture est à refaire. Tu sais, ce n'est pas nous autres qui gèrent ça, là. C'est réellement les ressources matérielles des centres de services, eux ont l'expertise. Donc, à partir de là, comment les montants jouent, comment ça s'améliore, tu sais, parce qu'il y a des écoles qui ont de la géothermie, ils ont de l'aérothermie, tu sais, il y en a qui ont eu des rénovations dans des centres de services, qui sont, tu sais, il y a de l'évolution. Il y en a d'autres qui n'ont rien pantoute. Fait que, tu sais, où va cet argent-là? Pourquoi ce n'est pas dépensé? Ou, j'allais dire à bon escient, peut-être dépensé à bon escient, là, tu sais, je ne suis pas dans tous les centres de services, mais il reste qu'il y a des états d'école qui nous prouvent qu'il y a force de constater que ça n'a pas avancé, ça n'a pas évolué la condition de ces écoles-là, alors que d'autres centres de services, ça l'a très bien évolué.
Pour ce qui est du salaire des enseignants, bon, il s'est amélioré dans les dernières années, puis heureusement. Est-ce que vous avez encore des difficultés de recrutement? Est-ce que nos établissements ont encore des difficultés de recrutement? Puis si oui, pourquoi on a encore ces difficultés-là? C'est l'attraction du métier qui n'est pas aussi attractif qu'à l'époque?
Ben, tu sais, tantôt, je parlais du négativisme ou de je suis capable de faire ta job, j'ai déjà été à l'école. Ça donne pas le goût à quelqu'un de devenir membre du personnel. Puis là, on parle des profs, mais je vous dirais là, que la pénurie, elle est chez les profs, elle est chez le personnel de soutien, service de garde, puis même les directions, là, il y a un impact, là. Fait que, tu sais, oui, il y a eu un gain, mais on cherche encore des gens dans à peu près tous les corps de métier, dans tous les centres de services ou pas, que ce soit en région ou centre-ville, là, On cherche régulièrement des gens. Le salaire, c'est beau, mais il y a les conditions qui viennent autour. Tu sais, je vous donne un exemple, là, puis ça, c'est un exemple de direction. Une direction va gagner un bon salaire, on ne se le cache pas, on peut aller là, jusqu'à à peu près là, 150 000. Okay? Mais quand on a une plus petite école, le salaire est plus petit. Puis il y a des profs maintenant qu'avec la dernière convention collective, quand ils font de la suppléance, ils peuvent gagner un surplus puis gagner plus cher qu'une direction. Fait que, tu sais, c'est dur de dire à quelqu'un, viens-t'en de notre côté, viens-t'en comme direction, je te verrai. Puis tu vas avoir plus de gestion à faire, tu vas avoir plus de reddition de compte, tu vas travailler plus d'heures. Mais tu vas gagner moins cher. C'est dur d'attirer du monde là, dans ce temps-là. Fait que, tu sais, il y a tout ça, là, tu sais, il y a les conditions, les profs, là, tu sais, c'est ce qu'ils demandaient la dernière négociation, les conditions. Ils ont eu le salaire, mais au niveau des conditions, il n'y a pas grand-chose qui a changé pour eux autres, là. Ça, je vais laisser plus, là, tu sais, leur syndicat en jaser, ils connaissent plus que moi les impacts, mais nous, c'est toutes les différences, comme je viens de vous exposer, de dire qu'on a des profs qui gagnent plus cher que nous autres. Nous autres, il n'y a aucun temps supplémentaire, tu sais, que tu fasses. On est supposé faire 35 heures par semaine. Ça n'arrive pas, là, tu sais. En moyenne, on fait 53 heures, mais on n'est pas rémunéré plus pour ça, là.
Moi, je pensais que vous faisiez dodo tout l'été, que vous faisiez dodo pendant tout le temps des fêtes, que pendant les journées pédagogiques, vous faisiez dodo. Vous êtes en train de me dire que vous travaillez à l'année?
Les pédagogiques, on travaille non-stop.
Ouais.
Le temps des fêtes, vous avez raison, ça, on est arrêté nous aussi. Mais l'été, il y a des directions qui ne prennent que 3 semaines. J'allais, ouais, que 3 semaines. Il y a des gens qui vont dire, plains-toi pas, j'ai 2 semaines toute l'année, là. Mais qui vont prendre un temps beaucoup plus court de 3 semaines. Il n'y a personne qui prend le même temps que les profs, là, au niveau des directions. C'est impensable, là. Quand on va avoir pris un mois, c'est le maximum qu'on est capable de prendre parce que toute la préparation de l'année qui s'en vient, il faut que tout soit prêt quand tout le monde arrive, là. Donc, nous, l'embauche, les sessions avec les enseignants pour embaucher le nouveau personnel,
Ouais.
terminer tout ça, c'est début août. Il faut faire les horaires, il faut s'assurer que tous les élèves, les profs ont leurs horaires quand ils rentrent, que les réunions, la formation est prévue pendant l'année. Donc, il y a beaucoup de choses à préparer. On est au pied de grue là, dès le début de l'année, là, au mois d'août, on est là.
Dans le monde idéal, j'aimerais que les gens qui enseignent à mes enfants, ce soient des gens qualifiés, qui ont fait de hautes études, qui ont appris à connaître comment on doit faire pour éduquer à nos enfants, pour être sûr et certain qu'ils comprennent la matière qui est enseignée. Là, dans les dernières années, on avait des difficultés de recrutement. Votre job, quand vous jasez avec la direction des écoles, avec le personnel de la direction des écoles, puis même pour ce qui est des directeurs, embaucher quelqu'un qui n'est pas qualifié, ça ne doit pas être un geste qui est super agréable pour vous, mais vous n'avez pas le choix de le faire parfois.
Non, non, on n'a pas le choix parce que le choix que j'ai, c'est de dire, j'ai pas personne pour enseigner aux élèves, fait qu'ils verront pas la matière, ou j'ai quelqu'un qui va être là, qu'on va accompagner régulièrement pour l'aider. Puis, on se le cachera pas, il y en a qui sont top. Tu sais, que tu fais comme, hey, wow, OK, il n'a pas fait son bac, mais réellement, c'est une machine, excusez le terme. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de beaucoup, beaucoup d'accompagnement. Puis il y en a qui ne sont pas faites pour ça. Puis qui s'en rendent compte par eux-mêmes ou qu'on doit leur dire, ça cadrera pas, là. Tu sais, t'es pas faite pour ça. Fait que, tu sais, le bac de 4 ans, il n'est pas là pour le fun. Il est là pour donner les bases nécessaires pour faire un travail. Tu sais, j'accepterais pas qu'un médecin qui a fait quelques cours m'opèrent. J'accepterais pas qu'un électricien vienne jouer dans ma boîte électrique avec quelques cours qui n'a pas tout fini, puis que des watts, il n'est pas sûr comment ça marche. Mais on l'accepte dans nos écoles alors qu'on est la base. T'sais, tout ce beau monde-là ne feront pas le travail qu'ils font si nous, on n'existe pas. Faut arrêter de toujours parler négativement des écoles. Il se vit des belles choses. Puis ça, c'est une des choses qui fait que c'est moins attirant. Quand tu entends juste jour après jour du négatif, du négatif, du négatif, des sondages sur la violence, on est d'accord, il y en a, il ne devrait pas en avoir, mais il ne faut pas juste parler de ça. Il y a plein de belles choses qui se vivent dans les écoles. Avec les années, moi, j'ai rencontré des parents merveilleux, des parents qui sont devenus des amis à long terme. T'sais, il n'y a pas juste du négatif. Faut sortir de ce moule-là qui actuellement ne nous aide pas du tout, mais ça a des impacts du personnel non légalement qualifié parce que c'est une surcharge de travail pour certains enseignants qui travaillent avec pour les accompagner, pour les directions qui doivent être là de façon régulière pour dire, OK, là, telle affaire, tu fais ça comment? Ta planification, y as-tu pensé? T'as-tu pensé à ça? Là, j'ai une plainte d'un parent. J'ai une plainte de... Tu sais, il y a tout ça qui est à gérer et souvent, ils savent pas qu'ils savent pas. Fait que, tu
Puis,
sais, faut...
ils savent pas qu'ils savent pas, donc ils ne savent pas. Mais, puis, est-ce que ça joue dans l'échelle salariale quand un membre du personnel est embauché, puis c'est pas quelqu'un de qualifié, est-ce qu'il y a le même salaire que ceux qui ont leur bac?
Il reste à l'échelon 1. Il ne monte pas dans les échelons. Fait que tant qu'il n'est pas légalement qualifié, il n'y a pas de hausse de salaire. Il est au premier échelon.
Okay. Fait que ça peut être intéressant pour certains, puis des fois décourageant pour d'autres, parce qu'il y en a qui sont en mesure de faire des plus gros salaires en faisant un autre job. S'ils veulent aller prêter main forte puis sont pognés sur l'échelon 1, ça va vous donner un peu plus de job pour en retrouver un autre qui serait prêt à faire la même job au salaire peut-être un peu moins cher que l'autre voudrait. On passe la soirée avec André Bernier. Qui est André Bernier? C'est le président de l'Association du personnel des directions des écoles. On va faire une courte pause et on vous revient tout de suite.
Marceau le soir. Marceau le matin. Les sports.
OK, qu'est-ce qui se passe? Qui on échange? Qui on signe? Qui on signe pas? Canadien? Tout le monde était sous en fin de semaine. Puis, vois-tu là?
Je pense qu'il devrait y avoir une certaine distance. Fait que là, de voir Cole Caulfield bien chaud d'un bras à Saint-Louis, j'ai comme fait, ouais, là, on a peut-être traversé une petite ligne de. Après ça, comment tu veux que Martin Saint-Louis soit tough envers ces gars-là?
Ouais.
Luke Combs, il vient d'où? Hein? De la Caroline du Nord. C'est drôle parce que.
Fait que c'était les gars du CH qui allaient saluer le gars sur le stage qui vient de la Caroline.
Parce que moi, je suis encore plus de la vieille école. Ça fait même pas 24 heures, t'es éliminé, puis tu te saoules la gueule devant tout le monde.
Ils ont le droit de s'amuser. T'es tombé un vieux monsieur.
Ben non, mais voyons, je sais qu'ils ont le droit de s'amuser, mais tabarouette, ça fait 24 heures. Ça fait 24 heures, ça fait 4 matchs en ligne que tu joues comme de la marde.
C'est clair que moi puis Max, on se défonce la gueule.
Puis, Marceau, le matin, en semaine, 6 heures.
Ce segment d'émission est présenté par Faneuf Équipement Agricole. Jusqu'au 20 juin, à l'achat de produits steel sélectionnés, obtenez une batterie gratuite d'une valeur pouvant atteindre 499,99 $.
Ce segment d'émission présenté par Chapeau Bell. Des produits de qualité à prix de liquidation. Des nouveautés chaque semaine. Québec, Saint-Georges, Lévis et ChapeauBell.com.
Le plus gros spectacle de lutte professionnelle de la NSPW est de retour avec le Golden Opportunity 16 le 13 juin prochain à 20h. On vous attend au pavillon Guy Lafleur. Mustapha Ali, Cédric Alexander, deux anciennes stars de la WWE, seront présents. On vous réserve une finale avec Michel Plante, Matt Falco et Claude Malone et des lutteurs de la région de Québec. Ah ouais! Il va y avoir aussi un combat d'échelle. Rendez-vous au ticketpro.ca ou encore écoutez Boulevard 102.1 pour gagner vos billets. Boulevard 102.1, fier partenaire de la NSPW.
Pour Amelia, pour une enfance sans cancer. Uniprix s'associe à la Fondation Charles Bruno pour soutenir la recherche contre le cancer pédiatrique. Passez dans une succursale Uniprix et faites un don.
Coudon, as-tu pris tes cartes dans une boîte de céréales? Hey, pis toi, Steve, t'es tellement lent, si tu cherchais quelqu'un pour ralentir le chantier, ils ont pas été le bon! Pis toi, ma belle, à la bonne ta banane. Mais là, c'est rien qu'une blague.
Oui, mais là, c'est plus drôle. Sur les chantiers, on entre en zone respect. Vous êtes témoin ou victime de comportements inappropriés? Agissez. Pour des ressources et du soutien, visitez zonerespect.org.
Chez Dino, profitez de 15% de rabais sur les traitements K9 Prevencia 360 contre les puces pour chiens et chats. Protégez vos animaux. Les puces se multiplient rapidement et causent démangeaisons et infections. Rendez-vous en succursale ou sur dino.ca pour découvrir nos spéciaux du mois.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com, courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
E-box te donne une carte prépayée de 100 $ quand tu t'abonnes à l'Internet 500 Mbps à 55 $ par mois.
Un cadeau, puis c'est même pas ma fête. Merci, E-box. Ah, t'aurais pas dû.
Vite, c'est jusqu'au 17 juin. Détails au e-box.ca.
Chez Davie, chaque soudure fait partie de quelque chose de monumental. On recrute plus de 100 soudeurs monteurs à Lévis dès maintenant, jusqu'à 37 $ et 11 $ et heures supplémentaires payées en temps double. Applique maintenant au davy.ca. On t'attend.
Besoin de cèdre pour vos projets extérieurs? Le cèdre de l'Ouest et le cèdre du Québec sont en vedette chez Limaco. Particulier ou entrepreneur, Limaco a un vaste choix de cèdre à très bon prix. Limaco, spécialiste en vente de bois depuis plus de 25 ans. Limaco.ca.
Les meilleurs endroits pour profiter de l'été à Québec, c'est au port de Québec. L'Agora, l'Oasis, la baie de Beauport et la Cale vous attendent à Port-Ouvert. Portdequébec.ca.
Boulevard 102.1.
De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
On a le plaisir de passer la soirée avec André Bernier, qui est président de l'association du Association québécoise du personnel de direction des écoles. Monsieur Bernier, c'est gentil de prendre 60 minutes avec nous dans Marceau Soir pour nous parler un peu de votre boulot à titre de président, puis nous parler un peu de ce qui se passe sur le terrain pour les gens du personnel de direction des écoles.
Bien, ça me fait plaisir. Vous savez, on se dit souvent, nous, que c'est un métier qui est méconnu, le métier de direction d'école. Tu sais. Quand on entend parler de direction d'école, c'est souvent que, bon, mon enfant a fait quelque chose de travers, la direction m'appelle. Alors que, tu sais, il y a tellement d'autres choses en arrière de ça là, que ça me fait plaisir de pouvoir vous en parler.
Parfait. Le fameux PEC qu'on entend parler depuis des mois et des mois, est-ce que ça vous a impacté dans votre travail? Est-ce que vous allez devoir dire au revoir à des gens qui étaient extrêmement pertinents dans leur emploi? Puis malheureusement, ben, avec les promesses qu'on leur a fait, on ne sera pas capable de remplir nos promesses, mais on les renvoie. Est-ce que ça vous a touché dans les dernières semaines?
Oui, on a, tu sais, quand on parlait de nos non légalement qualifiés, mais aussi de déqualifiés, on en a plusieurs que c'est des gens là, qui sont sur le PEC. Là, on nous a dit qu'on allait prolonger, mais on est encore avec plusieurs personnes qui n'ont toujours pas de réponse puis qui sont sur la fin de leur, excusez l'expression anglaise, mais des deadlines, là, ouais. Puis que ça peut avoir des impacts. Là. Tu sais, tant qu'on ne saura pas là, réellement qu'est-ce qui se passe avec notre monde, là, on pourrait avoir des trous de service l'année prochaine. Puis, tu sais, quand on nous dit... Bien, s'ils ne sont pas là, vous en prendrez d'autres. Oui, mais on a déjà une pénurie. On va les prendre où, ces autres-là? Tu sais, si je perds 50 profs, bien, je manque déjà de profs. Je vais en trouver où, 50 ouais. profs? C'est pas une imprimante 3D là, qui va faire que je vais avoir 50 profs de plus. Là. Je suis pas rendu là.
Pas encore. Puis, je vais vous faire une confidence, puis on va terminer là-dessus, M. Bernier. La grammaire rénovée, là, les nouveaux mots qui arrivent, les nouvelles façons de faire, j'ai de la misère à m'y retrouver. Les parents, est-ce qu'ils vous font part de ça? Là, puis même les profs, nécessairement, vous devez vous auto-former constamment, là, prendre d'autres cours parce qu'il y a des nouveautés et tout ça. C'est-tu complexe comme chose à distribuer à vos membres?
Bien, la grammaire rénovée, t'sais, c'est sorti dans le devoir, je pense, hier ou avant-hier, mais ouais. dans les écoles, là, au secondaire, c'est depuis 1996, puis au primaire, depuis 2004. Ça fait longtemps que c'est là, là. C'est sûr que comme parent, puis je suis parent là aussi, il y a des mots que tu fais comme « t'as pas eu, c'était pas ça dans le temps, c'était sujet, verbe, complément, là, t'sais, je comprends pas trop ». Parce que c'est pas à nous que c'est enseigné.
Le GFCP, le groupe facultatif complément de phrase. J'ai aucune idée c'est quoi, M. Bernier. Comment je peux aider mon enfant?
Bien, ça, justement, il y a quelque chose de bien qui est sorti avec Allo Prof dans la section parents. Ils ont tout fait un comparatif des termes de dans le temps, comme nous, ouais. et de maintenant, pour qu'on fasse des équivalences. Mais il faut toujours se rappeler qu'un parent, là, c'est pas l'enseignant de son enfant. Donc, c'est pas à lui montrer tout ça. Mais il y a peut-être une surutilisation des acronymes. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis, quand on regarde dans les cahiers d'exercice ou les notes là, qui sont données en classe, tous ces termes-là sont expliqués aussi. Là. Mais comme je vous dis, c'est depuis 2004 que c'est en place. Là, il n'y a rien de nouveau. Fait que les profs, là, ils connaissent ça, ils travaillent avec ça, puis les enfants qui rentrent à l'école aujourd'hui, puis depuis beaucoup d'années, ne fonctionne qu'avec ça. Fait que, tu sais, c'est compliqué pour nous, mais pas pour eux.
Et quand
il s'est basé, cette réflexion-là, sur on apprenait, je vais dire, des règles du par cœur, puis ben des exceptions. Maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça. Ça fonctionne par logique pour comprendre pourquoi ils travaillent la phrase de cette façon-là.
Oui. Le nouveau programme de français qui avait été mis en vigueur au début des années 2000, vous dites en 2001. Est-ce que ça, y a-t-il de la formation que les enseignants doivent prendre? Parce que, je veux dire, les enseignants, ils n'ont peut-être pas grandi avec ce système de français-là ou cette façon de faire-là. Y a-t-il une formation en continu que vous demandez constamment à vos enseignants?
À chaque fois qu'il y a un nouveau programme, automatiquement, dès le début, il y a de la formation qui suit là, collée ou voire même avant, selon la grosseur des changements qui est apporté. Donc, dans ces années-là, il y a eu de la formation. Puis les profs qui sont formés actuellement à l'université sont déjà formés sur la grammaire rénovée, ne sont pas formés sur la grammaire traditionnelle. Fait que pour eux autres, ils savent peut-être même pas c'est quoi la grammaire traditionnelle parce que les jeunes profs de maintenant ont été sur les bancs d'école avec la grammaire rénovée déjà.
Parce que c'est terrorisant là, pour les parents là, de voir cette nouvelle façon-là. Je peux vous en passer un papier. Ça a été un plaisir de discuter avec vous, M. Bernier. Je rappelle aux auditeurs, votre prénom et nom, c'est André Bernier. Votre fonction, vous êtes président de l'Association québécoise du personnel des directions des écoles. Vous représentez énormément de gens. Ça a été un plaisir. Puis on se reparle dans les prochains mois, si vous le désirez. Ça a été très agréable comme rencontre.
Ce sera un plaisir et un beau bonjour, bonsoir à tous vos auditeurs.
Passez une excellente soirée, puis on se reparle. Merci beaucoup.
Merci.
Bye-bye.
Marceau, le soir.
Ce segment d'émission est présenté par Faneuf Équipement Agricole. Jusqu'au 20 juin, à l'achat de produits Steel sélectionnés, obtenez une batterie gratuite d'une valeur pouvant atteindre 499,99 $.
Boulevard 102.1.
Vous le savez, Max est parfois un champion pour se mettre les pieds dans les plats et créer des froids en studio.
Le point positif là-dedans,
c'est Max Larouche qui vous a préparé ça ce matin.
Ça pourrait vous faire gagner une thermopompe Lennox 12 000 BTU offerte par Enviro-Confort. Écoutez l'extrait.
Si vous voulez communiquer votre appréciation pour la toune de Max.
Oh! On va battre les Hurricanes!
Finalement, on a trouvé la toune faire parler terroriste à Guantanamo.
Il y a quelqu'un qui demande quand je finis mon stage.
Pour participer au concours, inscrivez
Toune de Max
au blvd.fm pour gagner votre thermopompe et être au frais cet été sans avoir les froids créés par Max.
Et ce, grâce à Enviro-Confort.
Ce soir, ça se passe au Stade Canac. Des circuits, une foule survoltée et l'ambiance unique des capitales vous attendent. Billets à capitaldequebec.com.
Le 1er juillet approche et vous n'avez toujours pas trouvé de logement. Vous avez cherché partout et vous ne savez plus quoi faire. Vous pouvez compter sur les services d'aide à la recherche de logement des offices d'habitation. Ils sont là pour vous accompagner dans vos recherches. Contactez-les sans tarder. Ce service est gratuit. Pour en savoir plus, visitez québec.ca/recherche-logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
Le prix d'ami est de retour chez Benet et compagnie. Et tout le monde peut en profiter. Pour un temps limité, obtenez le repas wrap à 10,99 $. Et grâce à l'appli Mon B Éco, les membres bénéficient d'un prix encore plus généreux à seulement 8,99 $. Faites vite, l'offre est valide jusqu'au 29 juin. Des conditions s'appliquent.
Pièce d'auto économique, c'est 5 centres de distribution, 8 magasins, un site transactionnel et plus de 200 employés à votre service. En juin, profitez de nos différentes promos sur les freins, les amortisseurs, les produits d'esthétique. Ouvert le samedi au 1240 Charest-Ouest, pièceéconomique.com.
Boulevard 102.1.
Vous avez un témoignage, des préoccupations, une situation à dénoncer? Ça nous intéresse. Écrivez à Mathias Turcotte, notre journaliste terrain. citoyen@blvd.fm.
102.1. Cette semaine, dans la circulaire Super C, la caisse de 48 canettes de Coors Light est à 69$, puis la caisse de 48 canettes de Molson Export est à 72$. Le meilleur coup de l'été, c'est Super C. Valide jusqu'au 3 juin en magasin et en ligne. Détails au superc.ca.
L'aventure vous appelle partout au Québec.
Québec chez Arbraska. Tous nos parcs sont ouverts avec encore plus de tyroliennes, de défis aériens et de sensations fortes en pleine nature. En famille, entre amis ou entre deux montées d'adrénaline, découvrez votre aventure dès maintenant. Réservez sur arbraska.com.
Vous cherchez un endroit spécial pour le brunch du dimanche? Venez goûter la cuisine du Moulin de Beaumont. Savoureuse, unique et servie dans un décor parfait pour un délicieux moment en famille avec une vue exceptionnelle sur le fleuve et l'île d'Orléans. Réservez votre place, moulindebeaumont.ca.
Pour Amilia, pour une enfance sans cancer, Uniprix s'associe à la Fondation Charles Bruno pour soutenir la recherche contre le cancer pédiatrique. Passez dans une succursale Uniprix et faites un don.
La meilleure équipe parlée à Québec. Québec. Est à Boulevard 102.1.
Are you alive?
102.1.
Salut, c'est Marceau,
Jeff Fortin
et Max Larouche,
Catherine Bachand,
Antonin Iacarini
et Mathias Surcotte.
Salut, c'est Denis Gravel,
Véronique Bergeron
et Audrey Pinchot.
Nous sommes
Boulevard 102.1. Maintenant, 100% parler en semaine.
It's been a while since I could hold my head.